Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à chaque émission. Et les podcasts Conflits ont été primés par l'agence de production Cosa Vostra, qui a classé les podcasts parmi les 40 principaux podcasts français, avec d'autres médias beaucoup plus importants que Conflits, comme Le Figaro, Le Monde ou TF1. C'est la preuve que, avec moins de moyens humains et techniques, on peut malgré tout arriver à faire des choses intéressantes, et je vous remercie de votre fidélité à nos émissions depuis 2016 et de nous permettre ainsi de vous proposer des choses extrêmement variées. Et puis, les podcasts Conflits sont en accès libre. La meilleure manière de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre revue en allant sur notre site internet revueconflits.com, où vous trouverez notre boutique en ligne avec nos anciens numéros au format numérique et au format papier, ainsi que toutes nos formules d'abonnement. Alors cette semaine, nous allons parler du luxe, nous allons parler de l'industrie du luxe, et nous allons essayer de voir quel est son rôle, quel est son poids dans l'économie française. On a parfois une image un petit peu ambivalente du luxe. D'un côté, ça fait rêver, ça fait évidemment vibrer pour ce que ça apporte, pour la qualité des produits. Et puis de l'autre, eh bien, on peut être tenté de se dire que le luxe, c'est pour les autres, que le luxe, c'est pour les riches, et que forcément, dans un pays qui prône l'égalitarisme à tout craint, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, comme nous allons le voir, l'industrie du luxe est une véritable industrie, elle a un rôle extrêmement important dans l'économie française et contribue aussi au maintien et à la pérennisation d'un grand nombre de métiers et de savoir-faire. Pour traiter de cette industrie du luxe, je reçois cette semaine Guillaume Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Conflits. Vous êtes étudiant à l'école de guerre économique et vous avez réalisé une note d'étude avec d'autres de vos camarades, une note d'étude qui s'appelle « Évaluation de la puissance française dans l'industrie du luxe ». Alors l'école de guerre économique fait réaliser régulièrement un certain nombre de notes. Nous avons eu l'occasion d'y consacrer plusieurs de nos émissions. Et celle-ci, donc, vous avez consacré au luxe et qui permet de mieux comprendre cette puissance industrielle. Première question pour débuter un petit peu notre entretien. Comment est-ce qu'on pourrait définir le luxe exactement? Quels sont les champs qui rentrent dans le domaine de l'industrie du luxe?
Alors c'est justement l'une des toutes premières questions que nous nous sommes posées dans le cadre de la rédaction de ce rapport, dans lequel, vous l'avez souligné, nous étions 9 au total, 9 étudiants qui travaillaient sous ma direction. Et c'est une réponse qui est difficile à apporter. Le luxe se caractérise par un aspect superflu, par un aspect coûteux, et surtout, il faut faire un choix parmi tous ces biens de luxe, tous ces produits qui entrent dans cette catégorie. Nous avons choisi de nous concentrer sur les biens de luxe personnels, donc ce qui exclut le luxe expérientiel, comme l'hôtellerie, la conciergerie, la gastronomie, les vins ou les spiritueux. Nous nous sommes aussi concentrés sur les biens de luxe courants, donc hors biens meubles et immeubles d'exception, et enfin, les produits issus d'un artisanat, donc hors production en série. Désolé de vous l'apprendre, votre iPhone ne fait pas partie des biens de luxe, et c'est aussi un des points de détail, un des points qui nous a intéressés, c'est de savoir, dans un monde qui est très centré sur la consommation, où se situait le luxe et où se situaient les produits premium, en fait, qui sont vendu extrêmement cher, d'un aspect soigné, avec un packaging qui est lui aussi extrêmement soigné, mais qui ne rentre pas dans cette catégorie.
Donc dans le luxe, il faut de l'artisanat, enfin tout ça, c'est les critères que vous avez retenus. On peut penser au carré Hermès, on peut penser aux montres également. Un artisanat, il faut qu'il y ait aussi une dimension de rareté, une dimension d'excellence également qui rentre dans ces catégories.
Tout à fait, et cela participe vraiment dans le cadre du luxe, à faire ressortir une image qu'on associe beaucoup à la France. Et on va y venir.
Alors, vous dites l'artisanat, et c'est aussi une industrie. Or, l'industrie évoque dans l'esprit du grand public une production en série. Vous avez évoqué le cas de l'iPhone. De quelle manière on peut justifier, on peut dire que le luxe est véritablement une industrie?
Eh bien, tout simplement à la vue des volumes qui sont dégagés, que ce soit en termes de production, mais aussi en chiffre d'affaires. Le luxe, en 2018 par exemple, c'était un marché évalué à 300 milliards d'euros.
300 milliards d'euros, pour la France et puis aussi pour le reste du monde.
Voilà, au total, pour le reste du monde.
Alors, vous avez, dans la première partie du rapport, vous avez fait un tableau avec les principales entreprises du luxe, notamment les 10 premières. On voit que dans les 10 premières, on a 4 françaises, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès. Et sur les 5 premières, il y a 3 françaises. Alors, ensuite, en troisième position, c'est Estée Lauder, qui est américaine, Richemont, qui est suisse, qui est notamment connu pour ses montres, Chanel, Essilor Luxottica, italien, PVH Corp, qui est américain, Hermès donc, et ensuite une chinoise, CTF. Donc les Français, les entreprises françaises sont majoritairement représentées. On a ensuite 2 américaines, et puis une italienne, une suisse, une anglaise et une chinoise. Au regard de ce tableau, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de spécialisation du luxe en France, une sorte d'élément qui fait que la France est véritablement une terre du luxe?
Oui, tout à fait. Ces grands groupes que vous avez cités, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, sont fréquemment regroupés sous l'acronyme KOHL, qui s'orthographie K-O-H-L, et qui est assimilé aux GAFAM du luxe. Une belle expression. Et à elles toutes, ces 4 entreprises, elles dominent une part très très importante du marché. Si on les additionne avec les 3 autres entreprises présentes dans le top 100, qui sont Clarins, SMCP, Zadig et Voltaire, le poids de la France au total, c'est 28% de l'intégralité de ce marché en 2021. Et de plus, les marges nettes de profit de ces cols, elles sont comprises entre 11 et 22%. Elles sont bien 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 supérieures à celles de leurs principaux concurrents étrangers.
Alors là, on a des grandes entreprises du luxe que l'on connaît, mais dans le luxe, il y a aussi des artisans beaucoup plus modestes ou beaucoup plus petits. Donc il y a d'un côté ce que vous avez évoqué, les GAFAM du luxe, et de l'autre, tout un réseau de petits artisanats, de petites industries, donc beaucoup plus éclatées, qui ont des chiffres d'affaires moins importants, certes, mais qui rentrent aussi dans cette importance économique.
Tout à fait, un réseau de sous-traitants, mais souvent, ces petits artisans sont possédés, sont repris par ces grands groupes du luxe qui n'aiment pas la dépendance.
Alors, on va aborder l'ensemble de ces entreprises. Elles ont chacune des histoires extrêmement intéressantes. Peut-être commençons par Hermès, parce que c'est vraiment un cas très particulier. C'est une histoire de famille. C'est une entreprise qui appartient encore à une famille. Et ce qui est intéressant chez Hermès, c'est que, à l'origine, au 19e siècle, l'entreprise fabriquait des selles. Donc de la sellerie, c'est pour ça qu'on parle du sellier Hermès ou du point sellier Hermès. Cette entreprise aurait dû disparaître comme toutes celles qui fabriquaient des selles au 19e siècle, au moment où apparaît la voiture, et donc où le cheval est beaucoup moins utilisé. Et finalement, Hermès parvient à se diversifier, à faire des sacs ou des valises pour l'automobile, et puis tout en conservant une identité autour de l'équitation qui demeure forte, elle est maintenant présente dans beaucoup d'autres domaines.
Effectivement, comme vous soulignez, son activité de sellerie ne s'est pas perdue. C'est toujours une des marques de fabrique, un des aspects phares de cette marque. Mais pour autant, elle a su se développer, se diversifier sur la base de rachats de concurrents, par exemple. Et il semblerait que la société souhaite renforcer son image de marque autour de l'artisanat, la production de produits d'exception. Et le groupe Hermès, c'est un petit groupe finalement qui ne possède que 7 autres marques, qui ont été acquises pendant la seconde moitié du XXe siècle. Mais ça demeure un groupe familial que nous avons qualifié de force tranquille.
Et alors, autre groupe là, très différent d'Hermès, c'est LVMH. Alors LVMH est connu notamment par la figure de Bernard Arnault, mais ce qui est intéressant, et vous l'évoquez aussi dans votre note d'étude, c'est qu'aujourd'hui on voit LVMH dans toute sa puissance. Or, c'est un groupe qui s'est constitué assez tardivement, en 1987, mais qui, dans ses différentes composantes, a fait faillite à la fin des années 1970. C'était le groupe Boussac, et finalement, Bernard Arnault a récupéré un groupe qui était en déshérence, qui était très loin des sommets où il est aujourd'hui. Il a réussi à en faire le grand nom du luxe que l'on connaît.
Tout à fait. Et LVMH, c'est aujourd'hui un des groupes, un groupe qui possède une marge nette de profit à 11%. C'est la plus faible des cols, mais c'est excellent pour une marque du luxe. Et c'est le fruit de décennies, en fait, de renforcement de la marque.
Est-ce que LVMH a une stratégie particulière dans son positionnement ?
Et oui, une fois encore, c'est une marque extrêmement agressive qui vient chercher à acquérir des petits groupes à travers une veille sur le marché, à travers un regard vraiment pointu, comme le ferait un grand groupe de la tech finalement qui surveillerait des startups.
Et puis le concurrent c'est du LVMH, c'est Kering. Alors c'est à la fois une concurrence économique puis une concurrence aussi d'hommes, parce que chez LVMH on a Bernard Arnault, chez Kering c'est la famille Pinault, donc il y a aussi une concurrence humaine, personnelle. Est-ce que Kering a la même logique que LVMH ou est-ce que c'est une autre logique industrielle?
C'est une logique qui est similaire mais qui s'exprime différemment, puisqu'il s'agit de racheter encore une fois des groupes du luxe, mais à l'étranger surtout. Ça peut se voir par exemple avec des grandes maisons qui sont acquises entre 1999 et 2011, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, et puis bien sûr une fusion récente en 2011 avec le groupe Gucci.
Alors ces entreprises françaises, vous avez donné les volumes de chiffre d'affaires qui sont importants. Quel est leur rapport au territoire français ? C'est-à-dire que les Français ne sont pas les principaux consommateurs de ces produits. C'est une industrie qui est éminemment mondialisée et qui vit grâce à la mondialisation, grâce aux clients qu'il peut y avoir dans le monde. Mais il y a aussi un rapport aux territoires locaux, à la production locale. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu analyser et quantifier, genre ce rapport au local, au terroir, au producteur, à l'artisanat local?
Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque toute cette industrie du luxe bénéficie aussi de sa territorialité pour son image. Le Made in France se vend extrêmement bien. Et se vend jusqu'en Chine, par exemple. Les 300 milliards de chiffres d'affaires du marché du luxe évoqués en 2018 sont composés à 35% d'une demande chinoise, qui ne manquera pas de surprendre de la part d'un pays communiste.
Et quels sont les autres grands marchés internationaux pour les entreprises françaises ?
Alors l'Asie, bien sûr, dans son ensemble, dans sa globalité, on tend à observer un ralentissement de la croissance sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais en Asie, il y a une forte, forte croissance qui est prévue. Et puis surtout, c'est le marché du luxe, c'est un marché qui se démocratise. De 390 millions de consommateurs du luxe en 2019, nous devrions passer à 450 millions en 2025.
Oui, on pense aussi au marché des pays du Golfe, les Émirats et autres. Ça compte aussi pour ces activités?
C'est une part importante du chiffre d'affaires du secteur. Mais malheureusement, ils ne consomment pas assez. Voilà, ils ont atteint un plateau dans leur consommation. C'est un marché qui n'est plus en croissance.
Est-ce que la guerre en Ukraine a modifié les grands équilibres? On sait que les Russes, certains Russes évidemment, étaient des consommateurs importants, venaient à Megève ou à Courchevel ou à Saint-Tropez ou directement à Moscou. Le fait qu'on ait obligé les entreprises françaises à quitter la Russie, est-ce que ça a eu des impacts négatifs pour cette industrie du luxe?
Très marginalement, de manière étonnante, puisque les Russes qui consommaient des biens de luxe venaient les consommer en France. Donc, si on cherche à évaluer le poids des exports européens du luxe vers la Russie, ça ne représente que 1 à 3% du total mondial. C'est extrêmement peu à comparer avec les 35% évidemment que représente la Chine. Et la guerre en Ukraine a causé plusieurs remous dans cette industrie qui est notamment extrêmement feutrée. Donc par exemple, le 1er mars, Vogue Ukraine avait appelé à un embargo. Le 4 mars, Hermès, puis Chanel, LVMH, Kering et Richemont avaient annoncé une pause dans leurs activités commerciales en Russie. Et c'était une mobilisation historique finalement des acteurs pour une prise de risque tout à fait minime qui a tempéré, puisque malgré le retrait par exemple de LVMH, cette marque, ce groupe, annonce rester aux côtés de ses 3500 employés en Russie qui continueront à percevoir leur salaire. On peut y voir une manœuvre, par exemple, pour permettre un retour en force après les retraits plus définitifs d'autres concurrents. C'est tout à fait cohérent avec la stratégie de la marque qui est de s'implanter là où les autres ne sont pas, très vite, très fort.
Alors, il y a un sujet qui est évidemment très important pour l'industrie du luxe, c'est la question des contrefaçons et donc des produits qui sont déformés, qui sont vendus. Alors, c'est toujours un rapport un petit peu ambigu, parce que d'un côté, il faut qu'elles luttent contre cette contrefaçon, et en même temps, c'est aussi la rançon de leur succès. Les gens qui veulent avoir des faux sacs Louis Vuitton ou des fausses lunettes Chanel, bah, ils n'ont pas les moyens financiers de les acheter, mais ils ont l'impression de capter un petit peu cette image. Et vous montrez très bien dans votre note d'étude que notamment l'État français a mis en place certains dispositifs pour lutter contre la contrefaçon et pour renforcer, on pourrait dire, la traçabilité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une reconnaissance de la marque France.
Tout à fait, c'est un enjeu majeur puisque avec les États-Unis, la France est le deuxième pays le plus exposé à la contrefaçon, puisque le luxe, la contrefaçon, a connu un véritable effet de massification. Alors cette stratégie de la France contre la contrefaçon, elle s'applique avec une surveillance particulière du franco-lavage ou du French washing, un renforcement des identifications avec l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et puis un suivi profond de l'origine France des produits. C'est un point important puisqu'on ne peut pas se permettre de vendre sous étiquette France des produits qui sont en réalité défectueux ou qui ne sont pas à la qualité attendue. Cela pourrait attaquer grandement l'image simplement du pays.
Et ça, on peut mesurer cette efficacité ou est-ce que c'est réellement efficace, ces mesures qui sont adoptées?
Alors, il y a une méfiance du consommateur, comme toujours, mais il y a aussi une partie des consommateurs qui choisissent sciemment cette voie. Et une méfiance puisque, par exemple, et c'est ce que nous avions relevé aussi, il y a une importance relative qui, depuis les dernières années, du développement du marché du luxe d'occasion. C'est un segment du marché qui est estimé à 22 milliards d'euros en 2021, et 70% des acteurs de produits de luxe de seconde main préféreraient acheter leurs biens directement auprès de boutiques de la marque plutôt que de passer par des revendeurs, et cela s'explique notamment par la crainte des contrefaçons.
On pense notamment à Vinted, qui est peut-être la plateforme la plus connue pour la revente en ligne. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui contribue à vivifier l'économie du luxe?
Tout à fait, ça donne une visibilité à certaines marques et ça permet de, pourquoi pas, acquérir de nouveaux clients avec la diffusion de leurs produits.
Est-ce qu'on a des marques de luxe qui vendent justement par elles-mêmes des produits de deuxième main? Ça se fait dans l'automobile, hein. Il y a les grands concessionnaires automobiles ont tous créé des systèmes de vente de voitures d'occasion, justement pour certifier, garantir les pièces, enfin rassurer le client. Est-ce que les marques de luxe font pareil? On pourrait, vendre son sac Louis Vuitton et comme ça en acheter un d'occasion dans une boutique Louis Vuitton qui nous certifierait que c'est bien un vrai sac et que c'est pas de la contrefaçon.
Alors, je ne saurais pas vous renseigner sur les détails exacts du fonctionnement de chaque marque en la matière, mais évidemment, l'industrie du luxe qui est toujours à la recherche d'innovation pour placer ses produits, pour se faire entendre, se faire voir, ne peut pas passer à côté de ce marché de l'occasion et fait tout pour le maîtriser. C'est aussi une question d'image de marque.
Et puis, si on reste sur le marché chinois, donc vous avez expliqué que c'était le principal marché. Le marché américain, pour les entreprises françaises, ça, c'est quelque chose qui compte?
Oui, c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte, mais malheureusement, qui n'est plus en croissance. Et donc, il y a un désintérêt relatif de certaines marques vis-à-vis de ce marché. Et ces marques comptent beaucoup sur l'innovation, que ce soit avec de nouveaux produits, de nouveaux modes d'entrée sur ce marché, comme le numérique par exemple.
Et puis il y a aussi la nécessité d'avoir des ambassadeurs, enfin l'entreprise de luxe fonctionne beaucoup là-dessus, des acteurs, des sportifs qui vont faire la publicité pour donner aussi envie d'acheter ou pour donner une image positive. Enfin, il y a Chanel par exemple qui fait beaucoup ça, LVMH aussi, ça contribue aussi à cette activité du luxe?
Oui, ça contribue puisque c'est le luxe a récemment pris la mesure du phénomène des influenceurs, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais également dans des systèmes beaucoup plus divers, par exemple dans Animal Crossing, je crois, c'est Chanel, Louis Vuitton, Valentino avaient collaboré, c'était en 2020, pour permettre aux joueurs de devenir des égéries numériques. Et Balenciaga, en 2021, avait choisi les Simpsons pour une collaboration surprise avec la diffusion d'un épisode spécial du dessin animé qui promeut la marque lors de la Fashion Week à Paris. Donc tous les canaux qui peuvent permettre de donner un écho au luxe et à ces grandes marques sont employés véritablement.
Avec le danger de le banaliser aussi, c'est toujours la difficulté pour ce secteur, c'est que le luxe doit rester le luxe. S'il devient banalisé, s'il fait moins rêver, ou alors il perd de son intérêt.
Tout à fait, ou alors il devient simplement un produit premium pour lequel on dépense à grand prix, mais qui perd de son extraordinaire.
Comment vous voyez l'évolution du secteur du luxe dans les années qui viennent? Alors c'est vrai que c'est extrêmement varié entre les montres, les parfums, les vêtements. Est-ce que le phénomène qu'on a en France autour de l'artisanat, du Made in France, c'est quelque chose qui est que français, ou est-ce qu'on le retrouve aussi ailleurs, cette volonté d'être certain de l'attachement à un lieu, à un produit, à un terroir particulier?
Eh bien, il ne semblerait qu'il n'y ait qu'en France que le luxe fasse l'objet d'une politique publique, si l'on peut dire. On peut relever, par exemple, le plan pour la façon française en 2009, qui s'est traduit en 10 ans après par un contrat stratégique de filière mode et luxe. Donc, l'État accompagne l'innovation, la formation aussi de nouveaux créateurs de mode ou de simplement d'ouvriers dans cette industrie.
Mais merci Guillaume Bolland d'être venu nous présenter cette note que vous avez réalisée pour l'EGE, l'école de guerre économique, note réalisée avec 9 autres de vos camarades, qui s'intitule « Évaluation de la puissance française dans l'industrie du luxe ». On peut retrouver la note en format PDF sur le site de l'EGE, pour ceux qui voudraient comme ça retrouver l'ensemble des données ou des chiffres qui ont été présentés, et on le voit effectivement, une industrie qui est importante, qui joue un rôle économique majeur et qui fait partie des spécificités françaises autour de d'autres choses évidemment, mais c'est un élément important de la puissance économique française. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.